on s'est aperçu nous aussi qu'il était important de d'aller au-delà de l'organisation et de s'intéresser. Alors on a utilisé le cadre de Dominique Bucheton avec le multi-agenda et les gestes professionnels, et donc on avait fortement axé évidemment sur les liens de tissage. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on avait proposé ça en formation assez tôt dans la première année, mais ça s'adressait, c'était une formation qui touchait uniquement les plus de maîtres de classe et les directeurs. Mmh. Et on s'est aperçu que du coup, enfin on en parlait à l'instant, finalement ces liens de tissage sont assez efficaces du coup entre le maître sup et la classe du directeur, parce qu'ils étaient dans ce temps de formation, et qu'après ça fait partie des pertes de la retransmission aux autres enseignants des équipes. Donc après, quand on a fait des stages d'école, on s'est intéressé à retravailler avec ce cadre d'analyse, et pas uniquement à partir de vidéos, à partir de transcriptions de moments de séances, en particulier évidemment l'ouverture, la clôture, et puis des moments d'étayage. Alors c'est intéressant ce qui est apparu là, parce que ça vient enrichir. Enfin, je retravaillerai dessus du coup depuis, parce qu'il y avait la colonne donc de transcription, et puis donc des interventions du maître sup, du maître de la classe, des élèves, et puis une colonne pour les gestes professionnels. Et il manquait ce qui apparaissait là, presque la traduction, de ce qui est dit, par exemple mémoire didactique, il manquait une colonne qui apparaît là, qui viendra enrichir ça. Mais c'est vrai que de voir qu'il y avait des gestes professionnels qui étaient partagés par les deux enseignants, et des gestes professionnels qui appartenaient à l'un ou à l'autre. Et à l'inverse de ce qui a été présenté là, c'est plus le maître sup qui du coup a assuré les liens de tissage, et qui a aussi assuré la mémoire didactique, parce que c'était une séquence menée prioritairement par le maître sup, et donc qui faisait le lien, qui réactivait, c'était le maître sup qui réactivait ces éléments-là. Mais ça a été très riche en formation, pour ceux qui vont faire des dispositifs de formation, d'utiliser la transcription en plus de la vidéo, parce que vraiment on a le temps de décortiquer les interventions des élèves, des maîtres sup, et de déterminer qui fait quoi et quels gestes professionnels sont derrière.
Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi pour le magistère, c'est-à-dire d'outiller, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir aux épisodes filmés, parce qu'un épisode filmé c'est très intéressant, mais c'est aussi très très divergent, c'est-à-dire il y a tellement de choses à regarder que du coup on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement avec des épisodes transcrits, parce que déjà c'est très coûteux en temps de le faire. Et puis, ça permet effectivement un autre regard avec des analyses didactiques qui sont faites et qui peuvent nourrir en fait le travail des différents formateurs, mais aussi le travail des acteurs de terrain.
Moi, je prends la parole pour témoigner de ce qui s'est passé dans une de mes écoles dont j'ai été confrontée, en voyant ce que vous venez de me dire. Ça me donne des billes pour retourner vers cette école, où l'enseignant de CP et l'enseignant surnuméraire donc se sont partagés la classe pour l'apprentissage de la lecture à partir d'une méthode. Donc moi, quand je suis allée en début d'année voir comment ça allait se passer, je me disais, mais ça va pas marcher, comment c'est possible, parce que donc ça voulait dire que l'enseignant de CP, elle, ne voit pas la moitié de sa classe apprendre à lire en fait. Et eux, ils m'ont dit, mais non, ça, on aura des plus petits groupes, ça va mieux se passer. Et donc je les suis, ils se retrouvent confrontés à, ah mais mince, mais moi quand je dis ça, mais la maîtresse numéraire, elle est beaucoup plus avancée dans le manuel de lecture. Donc ils sont en train maintenant de se questionner, et tout ce que vous m'avez là dit et montré va me donner des billes pour un petit peu retourner vers ces écoles. Mais pour eux, c'était magique, enfin c'était la solution idéale de dédoubler et d'apprendre donc à lire moitié, ils allaient faire la même chose, quoi. Ouais. Mais moi, ça m'a interrogée, mais sans savoir comment je pouvais leur dire qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi.
Mais je crois qu'il y a, bien entendu, alors je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, travailler avec des groupes plus réduits à certains moments, ça peut être très bénéfique, parce que très chronogène, ça fait avancer le temps. Maintenant, quand on va regarder du point de vue des interactions, je pourrais mettre sur le Sur l'espace partagé, une petite analyse justement de ce qui se passe, par exemple, dans le petit groupe de 8 élèves sur les mots-outils. On peut se dire qu'avec 8 élèves, eh bien, il va y avoir un certain équilibre dans les interactions. Ça n'est pas vrai. Il y a un déséquilibre majeur dans les interactions. On pourrait se dire que Roland parlait hier de feedback. Il y a que ça pourrait déstabiliser quelque part les modalités d'interaction au sein d'un petit groupe avec un enseignant. Et là, comme elle est elle est répétitrice quelque part, enfin voilà, dans ce rôle de répétiteur, de renforceur sur les mots-outils. Eh bien, finalement, les interactions sont des interactions très ordinaires, c'est-à-dire qu'elle détient 50%, la maître plus, des interactions. C'est exactement à peu près ce qui se passe dans la classe, c'est-à-dire un tour de parole sur deux est détenu par la maître plus. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'elle est dans d'autres configurations, ça peut être différent. Hein, donc, faut rester aussi très, très attentif à ça. Donc, que le petit groupe, il peut aider, mais que le petit groupe n'aide pas de manière tout le temps. Mais là, je pense qu'il y a, un certain nombre qu'on pourrait qualifier peut-être d'idéologie sur plus le groupe sera petit et plus ce sera efficace, parce que plus ça sera facile.
Juste avant qu'on se sépare, une agression contre nos jeunes collègues plus de maîtres qui sont là et qui profitent mais qui n'osent pas forcément parler. Est-ce que ce que nous dit Marie, franchement, c'est des choses qui vous parlent, qui connectent pour le coup avec votre quotidien ou pas ? Vous avez le droit de ne pas prendre le micro et de m'envoyer au plot. Oui, elle veut bien. Merci. C'est mon sauveur.
Moi, ça connecte exactement avec ce que je fais. J'ai tous les cas de pratique. Je le fais en atelier, mais en atelier aussi dans la classe, ce qui permet de faire le feedback plus facilement. Après, le demi-groupe, enfin, moi, je le fais aussi avec les CP, sur plusieurs classes, mais moi, je vois l'intérêt parce qu'on fait des changements, en fait, de groupe toutes les périodes. Donc, en fait, on voit tous les élèves. Donc, ce qui permet à l'enseignant, quand même, de voir effectivement tous ses élèves, parce qu'il y avait la question de est-ce qu'il voit tous ses élèves. Et puis après, ensuite, c'est pas sur tous les. Enfin, c'est divisé, quoi. Moi, je sais deux fois par semaine par classe. Donc, en fait, il y a les deux possibilités. Enfin, je pense que c'est intéressant. Après, on le met en place cette année, on verra bien ce que ça donnera. Mais par rapport à l'année dernière, où j'étais plus en externalisé par rapport à la classe, moi je vois une différence parce que on est plus proche, enfin on peut quand même plus adapter au groupe d'élèves qu'on a, même avec les mêmes supports. Voilà.
Merci, sans regret. Alors, juste pour cet après-midi, par rapport à notre système de contraintes qu'on va faire évoluer, je propose qu'on ait cette organisation-là, donc on reprend à 13. Je propose que je fasse une petite présentation du projet de dispositif de formation que nous avons réalisé avec Marie, qui va, vous allez le voir, reprendre en donnant des outils un certain nombre de choses, et on vous donnera le lien pour que vous puissiez accéder à ces ressources même avant que ce dispositif soit utilisable dans Magistère. C'est pas sûr qu'il va être utilisable tout de suite.
Je vous propose aussi de mettre un très joli texte de Jeannette Tambonne, qui, elle, travaille depuis plusieurs années sur les regroupements d'adaptation, donc c'est un petit pas de côté, mais qui travaille effectivement sur cette idée de connexion-déconnexion des temps didactiques aussi. Je trouve que vraiment, alors c'est un article très récent, qui est de 2014, bon, puisque de toute façon c'est un groupe fermé, moi je l'ai en version fichier, donc pour ceux qui veulent aller plus, voilà, continuer cette idée-là, là je pense qu'il y a un beau texte qui est bien sûr sur les réseaux d'aide, mais qui montre bien que toutes ces questions-là, finalement, elles sont communes et qui pourraient être des outils aussi de travail avec les enseignants pour peut-être reconfigurer des dispositifs qui sont souvent quelque part, enfin, parce qu'ils sont mis en place depuis longtemps, sont des impensés, quoi.